Oui. Voilà. Bonjour à chacun. Je ne sais pas bien d'où vous venez, c'est ce que je demandais au père Frédéric. D'où viennent-ils ? Je vois tous des foulards orange. Est-ce que ça veut dire que vous venez d'un et un même lieu ? Oui. La province. Ah, la Provence. Je me disais la province. La Provence. D'accord. Ah, la cigale. Romans-sur-Isère. Bourg-de-Péage. D'accord. Le sud. Beaucoup du sud. C'est vous qui nous apportez le soleil. Mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'assieds. Je vais donner l'enseignement assis à cause d'un petit problème au genou. Un peu plus fort, un peu plus fort, oui. Le père Frédéric fait ça. Donc, je m'appelle Françoise. Ah, je suis une sœur consacrée de la communauté de l'Emmanuel. J'ai un petit accent qui vient de Belgique. Voilà. Mais j'habite à Paray-le-Monial et j'ai longtemps habité à Lyon. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que je suis belgo-française. Voilà. Alors, on m'a demandé de vous parler du Sacré-Cœur, source de miséricorde chez Pierre Goursat. D'abord, qui est Pierre Goursat ? Je devrais dire le vénérable Pierre Goursat. C'est le fondateur principal de la communauté de l'Emmanuel. Il a fondé la communauté de l'Emmanuel avec Martine Cata, Martine Lafitte, qui s'est mariée et qui s'appelle Martine Cata. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout de suite au début, il est vénérable. Voilà, il a été reconnu dernièrement vénérable par l'Église. Alors, je vais vous parler un peu de Pierre. Il se fait que j'ai eu la grâce, c'est une grâce, de le connaître, de le côtoyer, puisque Pierre est décédé en 1991, le 25 mars. Ça vous dit quelque chose, le 25 mars ? C'est l'Annonciation. Et sachez qu'il est né un 15 août. Voilà. Voilà. Donc, et je vais vous parler très rapidement de son attachement et son amour pour la Vierge Marie. Voilà. Qui, comme vous le voyez, l'a vraiment accompagné du début jusqu'à la fin de sa vie. Mais le thème n'est pas la vie de Pierre Goursat. Hein, le thème, c'est le Sacré-Cœur, source de miséricorde chez Pierre Goursat. Donc, le petit topo va être en trois temps. S'il y en a qui veulent prendre des notes, n'hésitez pas, même sur votre téléphone. Enfin, moi, je prends souvent des notes sur mon téléphone. Vous voyez, vous cliquez dans Word et vous écrivez. Voilà. Parce que parfois, il y a une phrase qui est la phrase au fait que Jésus veut vous dire et avec laquelle vous allez repartir. Et pour chacun, ce sera différent. Donc c'est important de pouvoir l'écrire pour que ne pas l'oublier, parce qu'on est tous un peu... on a tous un peu Alzheimer. Alors d'abord... Le Sacré-Cœur, source de miséricorde chez Pierre Goursat. Ce n'est pas non plus un enseignement sur le Sacré-Cœur. Hein. Donc je vais diviser donc mon enseignement en trois parties. Une courte introduction sur le rappel du message principal ici à Paray-le-Monial. Ensuite, un petit mot sur la miséricorde de Dieu. Et qui dit miséricorde dit trois petits points avec neuf points. Et puis, La miséricorde chez Pierre Goursat. Alors d'abord, le rappel du message de Jésus ici à Paray-le-Monial est rappelé d'une certaine manière à Sainte Faustine en Pologne au XXe siècle. Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, « Mon cœur est si passionné pour les hommes et pour toi en particulier. » Il faut bien se dire que cette phrase que Jésus a dite il y a 350 ans, Jésus nous l'a dit à chacun de nous. Mon cœur est si passionné d'amour pour toi. Est-ce que on reçoit cette phrase ? Vous pouvez redire dans le silence de votre cœur cette phrase avec votre prénom. Françoise, mon cœur est si passionné d'amour pour toi. Vous pouvez le dire dans le silence de votre cœur, si vous le voulez, avec votre prénom. Cet amour que Jésus a pour chacun de nous, ce n'est pas un amour distant, c'est un amour très personnel. Lorsqu'on lit les différentes apparitions, ce que Jésus dit dans ses différentes apparitions, le mot est toujours, quand il décrit son amour, est toujours excessif. Il dit d'ailleurs, à un moment donné, un excès d'amour. Ça déborde de son cœur. C'est un amour ardent. C'est un amour brûlant. C'est un amour inconditionnel. Hein, le côté brûlant, vous voyez sur la fresque à la Visitation, vous voyez les cinq plaies. C'est pas sanguinolent. C'est brûlant. Ça brûle de l'amour de Dieu. Hein? C'est un amour inconditionnel. Dieu ne met aucune condition à son amour pour nous. Et rien ne peut l'empêcher de nous aimer. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, etc. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. On trouve ça dans Romains, Saint Paul aux Romains, je crois que c'est chapitre 8. C'est un amour gratuit. Je n'ai pas à mériter son amour. Ouf. Parce qu'on est tous tellement des pauvres. Hein. Dieu nous aime parce que nous sommes son œuvre. Nous sommes issus de lui. Vous savez, comme un peintre, quand il peint une peinture, qu'il soit joyeux, s'il est joyeux, peut-être que la peinture aura des formes, des couleurs. S'il est plus dans une phase d'épreuve, peut-être que ce sera plus gris, plus sombre, plus... Mais c'est son œuvre, c'est issu de lui. Ça vient de lui, donc il aime son œuvre. Eh bien Dieu, il aime son œuvre, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes issus de son amour. Son amour nous habite. Alors, au fait, c'est la chose principale qu'il faut garder de votre passage à Paray-le-Monial. C'est Jésus même en toutes circonstances. Et cet amour, il l'a montré jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, qui a, après, permis la résurrection, sa présence aujourd'hui à nos côtés, vivant. Alors, ça c'était l'introduction. Quelque part, je regrette tellement que ce ne soit que l'introduction, parce que parler de l'amour de Dieu, c'est une telle joie, un tel bonheur, mais ce n'est pas le thème de mon enseignement qu'on m'a demandé. Donc maintenant, je vais tout de même parler de cette miséricorde de Dieu. Et qui dit, en 9 points, qui dit miséricorde, dit adorateur. Jésus passait de longues heures à prier son Père, à adorer son Père. Or, du Père vient la miséricorde pour le monde, puisqu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour sauver les hommes, pour nous sauver. C'est un acte de pure miséricorde pour chacun de nous, pour les hommes de tous les temps, passé, présent, futur. L'acte par excellence de miséricorde. Et Jésus nous dit, qui me voit dans Saint Jean? Qui me voit, voit le Père. Il est devenu le miséricordieux. J'ai presque envie de dire la miséricorde par excellence. En contemplant, en adorant son Père, il reçoit de lui la miséricorde. La miséricorde pour le monde. Deuxième point, qui dit miséricorde. Après, je vais demander ceux qui ont retenu les 9 points. Premier point, c'était adorateur. Deuxième point, qui dit miséricorde, dit un amour gratuit. Il nous aime avec des entrailles de mère. Et son amour dépasse de loin notre misère, nos pauvretés. Tout ça, quelque part, ça n'est pas important. Ça peut vous choquer, ça, hein, que je vous dise ça. Mais je vous dirai après ce que Pierre Goursat a dit par rapport à ça. Son amour dépasse de loin notre misère. On le voit avec le bon larron, Dismas. Cet homme avait peut-être tué, c'était un bandit, enfin, je ne sais pas ce qu'il avait fait pour mériter d'être mort sur la croix, de mourir sur une croix, mais contrairement à Jésus, il a dû pécher violemment. Mais il reconnaît sa misère. Quelque part, c'est la première confession. Au fait, je n'ai jamais entendu ça, et c'est la première fois que ça me vient. Il dit à l'autre, au mauvais larron, comme on dit, mais pour nous c'est justifié, mais pour lui pas. Autrement dit, pour moi, j'ai péché, j'ai fait du mal. Et que va dire Jésus ? Aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il a mérité quelque chose? Est-ce que toute sa vie a été un modèle d'amour, de sainteté? Non. Mais il a terminé sa vie en reconnaissant son péché, humblement. L'amour de Dieu est gratuit. Mais il peut entrer dans un cœur qui se vide de lui-même, qui se vide de son péché. Dans un cœur pauvre, dans un cœur disponible. Si je suis là et que je me dis, les autres sont pécheurs, mais moi, non, je connais pas ça. Vous savez, ces anciens portefeuilles, on faisait clic comme ça et ça s'ouvrait. Ben, si ce portefeuille est plein de mes péchés, il n'y a plus de place pour mettre de l'argent, il n'y a plus de place pour mettre de l'amour. C'est en donnant mon péché, en l'offrant. C'est d'ailleurs la seule chose que je peux offrir à Jésus et qui ne vient pas de lui. C'est mon péché. Et à ce moment-là, il y a de la place. Mon cœur se vide, il y a de la place dans mon cœur. Et l'amour, la miséricorde de Dieu peut y rentrer en abondance. Premier point, adorateur. Deuxième point, amour gratuit. J'étais enseignante. Hein. Donc, troisième point, qui dit miséricordieux dit pas de jugement superficiel. Le regard de Dieu est un regard plongeant, qui regarde le cœur, qui ne regarde pas l'extérieur, qui regarde d'abord, principalement le cœur. Ça me fait penser à la phrase de Saint-Exupéry, qui n'est pas un saint d'ailleurs, hein, c'est son nom de famille. Hein. Quand j'étais enfant, je croyais qu'il était saint. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais oui, l'essentiel de mon voisin, il est invisible pour mes yeux. L'essentiel de mon conjoint, il est invisible pour mes yeux. Chaque personne qui est en couple peut se dire ça. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Dans Saint Jean, il est dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. » Et notre ancien pape François avait compris cette phrase jusqu'au bout de ses entrailles. Le pape Jean-Paul II aussi, Saint Jean-Paul II, il ne jugeait pas les personnes. Nous pouvons juger des actes et dire « cet acte n'est pas bon ». Mais nous ne sommes pas là pour juger. Et Jésus n'est pas venu pour juger l'autre. Il l'aime. Il va l'aimer même dans sa pauvreté et surtout dans sa pauvreté. Donc nous pouvons nous... Moi, quand je m'entends dire ça, je me dis, et toi, ton prochain, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu juges, Françoise ? Est-ce que tu... Un jugement superficiel, quelqu'un qui t'a agacé, quelqu'un qui... Tous, on juge, et tous, chacun, nous sommes appelés à regarder le cœur. Comme Jésus à nous émerveiller de l'autre. Là aussi, je m'arrête parce que je vais vous dire quelque chose après de Pierre Goursat par rapport à ça. Hein? Moi, j'aime énormément, je pense que c'est un de mes textes préférés de la Bible. C'est la femme adultère. Donc, des hommes jettent aux pieds de Jésus une femme qui est adultère. Et Jésus est par terre, il est en train d'écrire sur le sable, on ne sait pas quoi. Et ces hommes, on imagine, avec un regard violent et agressif et jugeant, disent à Jésus... Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et moi, j'imagine Jésus. On dit qu'il ne regarde pas cette femme, on dit qu'il élève le regard. Vous imaginez le regard de pureté de Jésus. La femme ne pourrait presque pas le soutenir, ce regard. Mais il regarde vers les hommes. Et dans l'amour, il va leur dire, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est dans l'amour, il va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Manière de, un peu de réprimander, mais dans l'amour, en disant simplement, il n'y a pas de jugement. Mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on dit que les hommes, les uns après les autres, à partir du plus âgé, jettent leurs pierres par terre et s'en vont. Et il y a beaucoup d'interprétations différentes. Moi, celle que j'aime le plus, mais aujourd'hui, on en dit plutôt une autre, c'est qu'au plus on avance en âge, au plus on est âgé, au plus on a péché en tout, dans sa vie. Mais aujourd'hui, on dit plutôt une autre interprétation. Mais... Et puis, il regarde la femme adultère. Chacun de nous peut recevoir ce regard. Nous ne sommes peut-être pas adultères, mais nous faisons d'autres péchés. Et j'imagine le regard de Jésus sur cette femme, un regard d'amour, un regard de tendresse, un regard qui voit le fond du cœur de cette femme et qui l'aime, qui voit sa pauvreté, qui voit sa misère et qui le lui dit. Femme, qui t'a condamnée? Et puis il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Attention, il ne faut pas oublier la dernière phrase. Mais va, ne pêche plus. Donc, cet adultère est un péché. Mais je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Il juge l'acte. Il ne juge pas la personne. Il aime la personne. Il regarde le fond du cœur, l'âme. Qu'est-ce qu'il y a amener cette femme à vivre ça. On en vient au quatrième point. Donc, premier point, deuxième point, troisième point, pas de jugement superficiel. Quatrième point, qui dit miséricordieux, dit compatissant. La compassion. Lorsque le Seigneur voit la misère de cette femme, lorsqu'il voit ma misère, il voit d'abord l'essentiel de ma personne. C'est un cœur à cœur qu'il veut vivre avec chacun de nous. Et Jésus voit le cœur blessé qui est en chacun de nous et qui fait que nous avons tel ou tel réaction ou péché. Ça me fait penser à un jeune, ça s'est réellement passé. Moi, j'étais enseignante et il y a un professeur qui a été accusé d'abus sexuels sur un jeune. Je peux vous dire que je n'y croyais pas un instant et aucun des collègues n'y croyait un instant. Il a été au tribunal, etc., etc. Et c'était le professeur le plus merveilleux de l'école. Et à un moment donné, pendant le procès, le jeune a demandé pardon. Il a demandé pardon parce que ce n'était pas vrai. Et pourquoi est-ce qu'il va... Ça date d'il y a 35-40 ans. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il avait accusé ce professeur? Parce que depuis son enfance, son père lui disait « Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'arriveras jamais à rien. » Or, il avait raté son diplôme. Il n'avait pas eu son diplôme. Et donc, pour se trouver, soi-disant, une excuse, il avait fait accuser le professeur. Jésus regarde le fond du cœur de ce jeune homme, Souvent, c'est parce que nous sommes blessés, nous avons des blessures, que nous avons des réactions ou que nous commettons des péchés. Et ça reste un péché. Mais parce que nous sommes libres de faire et d'agir et d'avoir des réactions. Hein. Mais parfois, c'est, voilà, ça sort de nous ainsi. Jésus est miséricordieux, ça me fait penser à Zachée dans Luc au chapitre 19. Zachée qui était un collecteur d'impôts, qui ramassait, entre nous, c'est un voleur, quoi. Enfin, tous les collecteurs d'impôts ne sont pas des voleurs, loin de là. Hein. Moi, je connais, on a un frère de communauté qui travaille aux impôts et il n'est pas du tout un voleur. Mais celui-ci en était un, il était rejeté par tous. Et Jésus se promène, il y a un monde fou. Et sachez, comme il est petit, il est monté dans un arbre. Un sycomore, on dit. Pour bien montrer que c'est très concret, que c'est très réel, que ça s'est vraiment passé. Et Jésus va élever le regard vers Zachée. Et il va lui dire, Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. On voit là une profonde miséricorde, une profonde compassion pour Zachée, pour le pécheur qu'il est. Et pour toutes les conséquences d'ailleurs, le rejet des autres, l'isolement, etc., etc. Donc compassion, adoration, amour gratuit, pas de jugement, compassion. Cinquième point qui dit miséricordieux dit confiance. Je vois que je dois aller plus vite. Dieu a mis en chacun de nous une puissance de vie, l'Esprit Saint. Et dans sa miséricorde, il va nous faire confiance. Il a une confiance en nous. Une tellement grande confiance que Dieu dit dans le Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 et 20, « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. » Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Choisis donc. Moi, le mot que j'aime le plus là-dedans, c'est donc. Comme une insistance, je t'en supplie, je t'aime tellement, je veux tellement que tu sois vivant, que tu vives dans l'éternité auprès de moi. Et l'éternité, c'est déjà ici sur terre. Choisis donc la vie, choisis donc le bien, choisis donc l'amour, choisis moi, pas moi Françoise, mais choisis donc Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu nous fait confiance. S'il ne nous faisait pas confiance, il ne nous proposerait que la vie. Choisis entre la vie et la vie. Mais non. La confiance de Dieu. Il a d'abord eu confiance en son Père, parce que pour aller jusqu'au bout dans sa passion, il a fallu qu'il ait une confiance absolue dans son Père, que cette passion et sa résurrection allaient sauver les hommes, que de prendre dans tous nos péchés, ça allait sauver les hommes et les femmes du monde entier, de tous les temps. Sixième point qui dit miséricordieux dit petitesse, humilité, pauvreté. Jésus, c'est le roi des rois. Et dans Philippiens 2, on dit « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition des hommes, devenant semblable aux hommes, et reconnu homme à son aspect, etc. » Philippiens 2, vous allez le lire. Jésus ne nous regarde pas de haut. Dieu ne nous regarde pas de haut. Il s'est fait homme. Il s'est fait l'Emmanuel. Dieu avec nous, né humblement dans une étable, dans une grotte. Il se met à notre hauteur. Même encore, il se fait encore plus petit que nous, puisqu'il meurt comme un bandit sur une croix. Pour que nous puissions nous adresser à lui, pour que nous puissions l'accueillir dans notre vie. Et vous savez, les gens qui s'humilient, les gens qui sont petits, humbles, qu'est-ce que ça fait quand on est avec eux? Eh bien, ils nous grandissent. Vous savez, le roi Baudouin, qui est anciennement le roi des Belges, qui est donc le procès de canonisation vient à nouveau d'être ouvert par le pape François. Le roi des Belges, les gens qui le rencontraient personnellement, disaient, quand il nous voyait, quand on le rencontrait, on avait l'impression d'être seul au monde pour lui, qu'il n'y avait que nous qui comptions. Il était tout petit, tout pauvre. Et il s'émerveille de son œuvre. Je l'ai déjà dit, donc je vais continuer et j'en reparlerai avec Pierre. Donc, qui dit miséricordieux dit petitesse, humilité, pauvreté. Septième point, qui dit miséricordieux dit avoir de la considération pour toute personne. Toute personne. Même le plus grand pécheur. Jésus avait et a de la considération pour toutes sortes de personnes. Pour les riches. Et oui. Pour les pauvres. Mais ça, c'est une évidence, quelque part. Mais aussi pour les riches, pour les malades, pour les bien portants, pour les pécheurs, les grands pécheurs. Et alors, quand j'écrivais, j'allais mettre les petits pécheurs. Mais au fait, on est tous des grands pécheurs, je vais vous dire. Bon, on n'a peut-être pas tué, etc., mais on est tous des pécheurs invétérés. Hein. Rah. Ça s'accroche à notre peau. Vous savez que Saint Jean-Paul II se confessait tous les 8 jours. Tous les 8 jours. Le juste pêche 77 fois. 7 fois 77 fois, je crois. C'est ça, hein? Dis combien? 7 fois 77 fois. Mais finalement, c'est la même chose que 77 fois 7 fois. Si on fait un calcul. C'est parce que moi je dis 77, c'est pour ça que ça me distrait. Il s'adresse à tous, Jésus s'adresse à tous, il a de la considération pour tous. Ça me fait penser au pape François, qui avait de la considération pour tous. Le plus pauvre avait une même valeur à ses yeux. 8, qui dit miséricordieux, dit simplicité. Les récits de la résurrection que nous entendons en ce moment à la messe, depuis le début de la semaine, nous manifestent cette simplicité. Avec les disciples d'Emmaüs, qui sont tristes, qui se racontent, et nous qui croyons que c'était le sauveur, que celui qui devait sauver Israël. Jésus marche tout simplement à leur côté, tout simplement, il marche. Il n'est pas apparu avec des grands lasers, des grands rayons, en faisant des grands gestes. Non, il marche à leur côté, il leur dit, tiens, de quoi vous parliez en chemin, et puis il raconte, etc. Et puis il est tellement simple que les deux lui disent, ah, mais tu vas plus loin, mais reste avec nous, déjà le jour baisse, et puis il se met à table, tout simplement. Et puis il est reconnu par ce geste du partage du pain, qui rappelle sans doute qu'ils étaient là, à la scène, ou ils ont entendu parler. Mais voilà, ce don total. Et puis ils font mémoire de la joie qui les habitait en étant avec lui. Il y avait comme une lumière, une joie. Ou hier, je pense que c'était hier, où il voit les apôtres, les disciples, et Pierre, et je ne sais plus qui, Pierre sans doute. Et puis il leur dit de venir, et puis vous avez pêché quelque chose ? Oui, on a pêché du poisson, ils le cuisent, et puis ils le mangent, tout simplement. Hein ? Simplicité. Qui dit miséricordieux dit simplicité. Aujourd'hui, il montre ses mains. C'est très concret. Hé Thomas, tu as du mal à croire, mais mets ta main dans mon côté. Mais viens, viens, regarde, tu vas voir que c'est vrai. C'est tout simple, c'est très concret. C'est très réaliste. Simplicité. Adoration, amour gratuit, pas de jugement, compassion, humilité, on va dire, avoir de la considération, simplicité. Et dernier point, qui dit miséricordieux, dit don total. Jésus n'a rien épargné, rien gardé pour lui. Il est allé jusqu'au bout du don de sa vie. Et quand Jésus est miséricordieux vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas à moitié. C'est pas je te pardonne pour ça, mais l'autre chose je te pardonne pas. Et là aussi on peut se poser la question. Alors, dernier point, la miséricorde chez Pierre Goursat. D'abord, Pierre Goursat a lui-même fait l'expérience de la miséricorde dans sa conversion. À 12 ans, donc Pierre a des parents qui se sont séparés, il a énormément souffert physiquement, il a perdu son frère avec lequel il n'avait que 11 mois de différence, Bernard. Et son frère est décédé en 2 jours de temps. Et il a eu l'impression qu'on lui arrachait une partie de son cœur. Et puis, il a contracté la tuberculose. Et il va dans un sanatorium au plateau d'Assy. Et là, il entend une petite voix intérieure qui lui dit « Pierre, tu ne penses plus beaucoup à moi. » Tu es devenu orgueilleux. Et Pierre reçoit cette phrase en plein cœur. Il tombe à genoux au pied de son lit et il dit « J'ai laissé l'amour de Dieu entrer dans mon cœur. J'ai compris que je devais être bon et doux. J'ai compris le sacrifice du Christ. » Je vais vous raconter un autre événement de sa vie qui est très important et qui a eu pour conséquence une confiance et un amour inébranlable pour la Vierge Marie. Pendant la guerre, Pierre est dans la rue et à un moment donné, un soldat allemand moleste une femme et Pierre va lui envoyer un mot en pleine figure qui pour nous n'est pas si grave, mais en allemand ça signifie autre chose et le soldat va le poursuivre, arme à la main. Et Pierre va avoir l'occasion de se réfugier dans l'hôtel, dans un hôtel dans lequel il habitait, qu'il tenait. Et à un moment donné, il entend la voix de Marie qui lui dit « N'aie pas peur, tu es sauvé. » Et à ce moment-là, il va voir une échelle qui n'a jamais été là et qui ne le sera plus jamais après. Et il va avoir l'occasion, par cette échelle, d'aller sur le bâtiment à côté Et il s'est éloigné pendant plusieurs semaines, évidemment, il n'est pas retourné chez lui, parce qu'il savait que donc ce lieu allait être contrôlé. Et voilà. De là, sa confiance inébranlable en Marie. Alors, je vais vous parler des 9 points, pas spécialement dans l'ordre, des 9 points que j'ai dit de Jésus. Ça sera plus. Je peux... Donc, ça va... La miséricorde qu'il va vivre, où Jésus va lui parler de son orgueil au travers de son frère Bernard, ça va entraîner chez lui un non-jugement sur les autres. Un jugement des actes, mais un non-jugement des personnes. Il avait une véritable... Ah non, je vais d'abord vous donner un tout petit exemple. Moi, j'étais à la première année de formation des sœurs consacrées de la communauté de l'Emmanuel. Et Pierre, qui avait du mal à suivre, à dire le chapelet, il avait du mal à parler à la fin de sa vie. Enfin, c'était 5 ans avant la fin de sa vie, 6 ans. Et il nous a demandé... parce qu'il venait chaque fois qu'on disait le chapelet, on avait le chapelet à 14h, et il nous demandait, un jour il nous demande si on veut bien l'enregistrer sur notre cassette audio, c'était en 85. Et à partir de ce moment-là, vous savez, des jeunes sœurs, entre guillemets, en noviciat, comme on disait à l'époque, hein, on est un peu excités, on rit beaucoup, parce que la vie est très intense, tout est très intense, puis le Seigneur nous travaille, et donc, à partir du moment où Pierre nous a demandé d'enregistrer le chapelet pour qu'il puisse à la maison le dire avec nous, il n'y avait pas Catéo, il n'y avait pas tout ça, on a eu des fous rires dans tous nos chapelets, même quand il était là. Et il aurait pu, après, comme responsable de la communauté, nous réprimander et nous dire « Mais vous vous rendez compte, c'est le chapelet, vous priez Marie et vous avez... » Pas du tout, pas de jugement. Il voyait le fond des cœurs, il devait voir cette petite jeune sœur-là qui, ça explosait un peu et c'était pas méchant. Il avait de la considération pour les autres. Vous savez, la seule règle dans la communauté de l'Emmanuel, c'est la règle de la non-critique. Mais on est tous des pauvres pécheurs, hein, je vous le dis quand même. On nous disait, il est important d'avoir un esprit critique, de pouvoir dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est pas un esprit de critique des personnes. Parce qu'il avait de la considération. Il était profondément miséricordieux. La simplicité. Alors là, j'ai aussi vécu quelque chose avec lui. Avec Pierre, tout était simple. Je pense que le fait que c'était un homme qui avait de l'humour, il aimait faire des grimaces, il aimait faire rire, il aimait beaucoup rire. Et en même temps, c'était un homme d'une profondeur extraordinaire. Et il était simple avec tout le monde. Il se laissait pas intimider par les positions sociales. Un frère de communauté, qui est chapelain aujourd'hui à Paray-le-Monial, racontait qu'un jour, Pierre lui dit « Est-ce que tu veux m'emmener à aller acheter des chaussures ?» Et puis, c'est Gabriel Priou, hein, qui dit, bah oui. Et puis, ils arrivent au magasin, et donc Gabriel l'emmène en voiture, et puis il dit à Gabriel, est-ce que tu peux me prendre un caddie? Et Pierre s'installe dans le caddie, ne me demandez pas comment, mais ça, il faudrait demander à Gabriel. Et puis, Gabriel lui dit, mais Pierre, tu n'as pas de chaussures? Et Pierre lui dit, ben non, c'est pour ça que je vais en acheter. Alors ça peut paraître un peu comme si c'était un fou, Mais en fait, on mesure là une vraie simplicité, beaucoup plus profonde, beaucoup plus une simplicité. Le quand dira-t-on ? Oui, il faisait très attention au quand dira-t-on de Jésus. Qu'est-ce que Jésus ? Il ne vivait que pour Jésus. Ben, quand dira-t-on du monde ? Non. Je me souviens qu'un jour, j'étais jeune, j'avais 20 ans, et alors je ne raconte pas parce que Frédéric me dit qu'il n'y a plus que 5 minutes. Bon. La compassion. Pierre avait profondément de la compassion pour les pauvres. Il a accueilli sur la péniche, qui était le premier centre de la communauté à Paris, il a accueilli des SDF, des drogués. Il avait aussi de la compassion pour les âmes perdues. Ces trois mots qu'il y a dans la communauté de l'Emmanuel, adoration, je contemple l'amour de Dieu, je l'accueille en moi, cet amour va me donner de compatir avec toute personne qui souffre, et donc d'évangéliser, puisque ce sont des âmes qui sont perdues, qui sont comme des brebis sans berger. Et donc, Pierre avait un amour, une compassion pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Pas un jugement, une compassion. Et je connais trois hommes qui étaient à Lyon, qui ont été vraiment accueillis par Pierre, qui se droguaient, qui étaient SDF, et qui aujourd'hui sont mariés, ont des enfants, même peut-être des petits-enfants, j'ai pas suivi, mais certainement, voilà. Ils se sont reconstruits grâce à cette compassion et cet amour, cette miséricorde de Pierre, et qui les tournait vers le Père. Adorateur, Pierre passait de longues heures quotidiennes, pas une heure, deux longues heures quotidiennes devant le Saint-Sacrement. Je me souviens, les dernières années de sa vie, il était dans un fauteuil, un relax, à la péniche devant le Seigneur. Et il disait d'ailleurs, le secret, c'est de demeurer dans son amour. C'est ça, l'essentiel. L'humilité de Pierre. Au fait, c'est le point principal. J'aurais dû le mettre ou en premier ou en dernier lieu. Il reprenait régulièrement cette phrase de saint Augustin, « Pour aller vers Dieu, il faut trois choses, principalement trois choses. » Premier point, l'humilité. Deuxième point, l'humilité. Troisième point, l'humilité. Pierre s'est totalement dépouillé de lui-même. Il l'était déjà naturellement par sa maladie, par sa santé, mais aussi par ce « oui » à ce dépouillement qui lui était fait. Il était dans une confiance intégrale en Dieu. Il disait que l'humilité, c'était le seul chemin vers Dieu. Au début, il disait « Je suis un sale type ». Je ne sais plus à qui il disait ça. Est-ce que c'était le cardinal Suard qui l'accompagnait ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, la personne lui a répondu « Non, pas un sale type, un pauvre type, un pauvre type ». Et en même temps, quand Pierre nous enseignait, il disait, vous savez, nous sommes tous des pauvres types, mais infiniment aimés de Dieu. Et il relevait toujours ce psaume 138-139, merveille que tes œuvres. Nous sommes des merveilles aux yeux de Dieu. Dans une paroisse, j'ai fait faire cette démarche qui, je crois, c'est pas moi qui l'ai fait faire. J'ai demandé aux gens de dire à leurs voisins, « Sais-tu que je suis une merveille aux yeux de Dieu ? » Est-ce qu'on y croit ? Je ne vais pas vous le faire maintenant, parce qu'on n'a pas le temps. Et ça rejoint ce que Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance, pour que ça passe par toi. » Pour que, vous savez, c'est aussi ce que Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Hein? Vous voyez cette humilité. Lorsque nous sommes trop pleins de nous, ce n'est pas Dieu que nous donnons, c'est nous-mêmes que nous donnons. Mais si nous nous reconnaissons pécheurs, eh bien c'est Dieu qui passe. Et Pierre a gardé jusqu'à la fin de sa vie une horreur de l'orgueil. Moi, ce qui me frappait, c'est que, vous savez, en lisant le livre qui vient de sortir sur Pierre Goursat, le premier livre véritable de première biographie, ça se lit comme un roman. Et au fait, on voit que Pierre, il a rencontré beaucoup de grands de ce monde. André Malraux, Cocteau, le cardinal Suard, etc. Mais c'était impossible à deviner lorsqu'on le rencontrait. On était, mais tout à fait, moi j'étais tout à fait à l'aise de le rencontrer. Et je crois que c'est, l'avant-dernier point, une confiance. D'abord, elle se manifestait par une confiance au Père et une docilité au Saint-Esprit. Il désirait que les frères grandissent dans la foi. Il nous nourrissait par la parole de Dieu et par des conseils simples et concrets, des conseils incarnés, mais tout ce qu'il y a de plus simple. Le père Étienne Kern disait dans une homélie cette semaine, « Plus on se rapproche de Dieu, plus on devient humain. » Se rapprocher de Dieu, c'est pas être dans une spiritualité éthérée qui nous détache, qui nous éloigne de la vie concrète des autres, de soi. C'est accueillir Dieu, accueillir l'Esprit de Dieu dans notre vie concrète. C'est le laisser vivre en nous, mais dans le concret de nos vies. Et là, il nous disait que nous ne devions pas demander à Dieu de nous enlever tel ou tel péché, mais tout simplement que le Seigneur nous brûle, lui demander « Brûle-moi et transforme-moi ». Il disait, mais c'est demeurer en Dieu qui est l'essentiel. Et si je demeure en Dieu, c'est lui-même qui va brûler mon péché. C'est lui-même qui va me transformer. C'est pas moi, la force du poignet. De là l'importance de l'adoration. Et dernier point, le don total, pas le moindre. Et ça me fait penser à nos quatre derniers papes qui se sont donnés jusqu'au bout. Pierre, malgré une santé fragile qu'il a gardée jusqu'à la fin de sa vie, débordait de créativité, d'initiative. Il avait une fécondité. Il a fondé une librairie catholique pour vendre des Bibles à moins de prix. Il a fondé Il est vivant, une revue. Il a fondé SOS Prière pour les personnes qui étaient en souffrance. Il a fondé la Fidesco pour les pays en voie de développement, etc., etc. Il a eu une fécondité. Quand il était au fond de son lit, il ne s'est pas regardé. « Oh, maintenant, je m'occupe que de moi. » Je vous avoue que moi, c'est un peu comme ça. Et que quand je vois ça, je me dis, Françoise, convertis-toi, même au fond de ton lit, même dans la douleur, donne-toi. Et la dernière phrase, par la miséricorde que Pierre avait reçue de Dieu, et puis dont il a témoigné, il est devenu un témoin de l'amour de Dieu pour chacun. C'était l'amour, la charité suprême.